Chapitre 2 Esmeralda. La tête basse, mais le dernier, comme un général qui s'est bien battu, Gringoire avait salué ses comédiens malchanceux et s'était engouffré dans la première ruelle pour cacher sa peine et méditer à son aise. « Belle cohue d'âne et de butor que ces Parisiens !» grommelait-il entre ses dents. « Ils viennent pour entendre un mystère et ils n'en écoutent rien. » Ils se sont occupés de tout le monde, de ce clopin trouille-fou, du cardinal, de l'ambassadeur, de Quasimodo, du diable, mais de Madame la Vierge Marie, point. La nuit arrive de bonne heure en janvier.
Les rues étaient déjà sombres quand Gringoire avait quitté le palais.
Où allait-il dormir cette nuit? Il n'osait rentrer dans le logis qu'il occupait, ayant compté sur son mystère et sur l'avance qu'on devait lui donner pour payer à son propriétaire les 6 mois de loyer qu'il lui devait. Mais comme personne n'avait assisté à la représentation... Au premier carrefour, il tomba sur la procession du pape des fous qui se dirigeait vers la place de Grève à grands cris, avec musique et une foule de torches allumées. Cette vue raviva les écorchures de son amour-propre. Maudite fête! Le poursuivra-t-elle partout? Il allait s'enfuir, mais se ravisa au dernier moment. Puisqu'il était condamné au pape des fous et au défilé des imbéciles qui avaient démoli sa pièce, il décida de se perdre dans cette marée gesticulante et d'aller avec eux à la place de Grève. Au moins, y trouverait-il la chaleur d'un bon feu et quelque chose à manger. Lorsque Pierre Gringoire arriva sur la place de Grève, il était transi. Mais impossible de s'approcher du feu de joie qui brûlait magnifiquement au milieu de la place. Une foule considérable faisait cercle tout autour. Il se haussa sur la pointe des pieds et s'aperçut en regardant par-dessus les têtes et les épaules que dans l'espace laissé libre, entre la foule et le feu, une jeune fille dansait. Elle n'était pas grande, mais elle le semblait tant sa fine taille s'élançait hardiment. Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment sous ses pieds. Et chaque fois qu'en tournoyant sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair. Autour d'elle, tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes. Gringoire avait entendu parler d'une bohémienne d'une exceptionnelle beauté nommée Esmeralda. C'était elle. Parmi les 1000 visages que la lueur du feu rougissait, il y en avait un qui semblait plus encore que tous les autres absorbé dans la contemplation de la danseuse. C'était une figure d'homme austère, calme et sombre. Cet homme, dont le costume était caché par la foule qui l'entourait, ne paraissait pas avoir plus de 35 ans. Cependant, il était chauve. À peine avait-il aux tempes quelques touffes de cheveux rares et déjà gris. Son front large et haut commençait à se creuser de rides. Mais dans ses yeux enfoncés éclatait une jeunesse extraordinaire, une vie ardente, une passion profonde. Il les tenait sans cesse attachés sur la bohémienne, et tandis que la folle jeune fille de 16 ans dansait et voltigeait au plaisir de tous, sa rêverie à lui semblait devenir de plus en plus sombre. De temps en temps, un sourire et un soupir se rencontraient sur ses lèvres, mais le sourire était plus douloureux que le soupir. La jeune fille, essoufflée, s'arrêta enfin, et le peuple l'applaudit avec amour. « Djali !» dit la bohémienne. Alors, on vit arriver une jolie petite chèvre blanche, alerte, éveillée, lustrée, avec des cornes dorées, avec des pieds dorés, avec un collier doré, qui, jusque-là, était resté accroupi sur un coin du tapis à regarder danser sa maîtresse. « Djali !» dit la danseuse. « À votre tour !» Et s'asseyant, elle présenta gracieusement à la chèvre son tambour de basque. « Djali !» continua-t-elle. « À quel mois sommes-nous de l'année ?» La chèvre leva son pied de devant et frappa un coup sur le tambour. On était en effet au premier mois. La foule applaudit. « Djali !» reprit la jeune fille, en tournant son tambour de basque d'un autre côté. « À quel jour du mois sommes-nous ?» Djali leva son pied d'or et frappa 6 coups sur le tambour. « Djali !» poursuivit l'égyptienne. « À quelle heure du jour sommes-nous » Djali frappa 7 coups sur le tambour. Au même moment, l'horloge de la maison au pilier sonna 7 heures. Le peuple était émerveillé. « Il y a de la sorcellerie là-dessous !» dit une voix sinistre dans la foule. C'était celle de l'homme chauve qui ne quittait pas la bohémienne des yeux. Elle tressaillit, se détourna, mais les applaudissements éclatèrent et couvrirent la morose exclamation. « Sacrilège ! Profanation !» reprit la voix de l'homme chauve. La bohémienne se retourna encore une fois. « Ah ! Dit-elle, c'est ce vilain homme !» Puis elle fit une pirouette et se mit à recueillir dans son tambour les dons des spectateurs. Sur son brancard, Quasimodo le bossu n'avait pas perdu une miette du spectacle de la danseuse. Le nouveau pape des fous se rendait-il compte des sentiments qu'il éprouvait et des sentiments qu'il inspirait? Toujours est-il que cette sombre et malheureuse figure rayonnait. Il y avait comme un émerveillement d'enfant dans son œil de borgne. Ce ne fut donc pas sans surprise et sans effroi que l'on vit tout à coup un homme s'élancer à travers la foule et lui arracher des mains avec un geste de colère sa crosse de bois doré, un signe de sa folle papauté. Cet homme, ce téméraire, c'était le personnage au front chauve qui, le moment auparavant, mêlé au groupe de la bohémienne, avait glacé la pauvre fille de ses paroles de menace et de haine. Il était revêtu du costume ecclésiastique. Au moment où il sortit de la foule, Gringoire, qui ne l'avait point remarqué jusqu'alors, le reconnut. « Tiens, » dit-il, avec un cri d'étonnement. « C'est donc Claude Frollo, l'archidiacre. Que diable veut-il à ce vilain borgne? Il va se faire dévorer !» Un cri de terreur s'éleva en effet. Le formidable Quasimodo s'était précipité à bas du brancard, et les femmes détournaient les yeux pour ne pas le voir déchirer l'archidiacre. Il fit un bond jusqu'au prêtre, le regarda et tomba à genoux. Le prêtre lui arracha sa tiare, lui brisa sa crosse, lui lacéra sa chape de clinquant. Quasimodo resta à genoux, baissa la tête et joignit les mains. Puis il s'établit entre eux un étrange dialogue de signes et de gestes, car ni l'un ni l'autre ne parlait. Le prêtre, debout, irrité, menaçant, impérieux, Quasimodo prosterné, humble, suppliant, alors qu'il aurait pu l'écraser avec le pouce. Enfin, l'archidiacre lui fit signe de se lever et de le suivre. Quasimodo se leva. Alors, la confrérie des fous, la première stupeur passée, voulut défendre son pape si brusquement détrôné. Toute la cour des miracles s'élança menaçante contre l'homme chauve. Quasimodo se plaça devant le prêtre, fit jouer les muscles de ses poings athlétiques et regarda les assaillants avec le grincement de dents d'un tigre fâché. Le prêtre reprit sa gravité sombre, fit un signe à Quasimodo et se retira en silence. Quasimodo marchait devant lui, éparpillant la foule à son passage. On les laissa s'enfoncer tous deux dans une rue étroite et ténébreuse où nul n'osa se risquer après eux. De son côté, Gringoire s'était mis à suivre la bohémienne, à tout hasard. Il lui avait vu prendre avec sa chèvre la rue de la Coutellerie. Il avait pris la rue de la Coutellerie. Pourquoi pas, s'était-il dit. Il marchait donc tout pensif derrière la jeune fille qui hâtait le pas et faisait trotter sa jolie chèvre en voyant rentrer les bourgeois et se fermer les tavernes. Après tout, il fallait bien qu'elle loge quelque part, cette bohémienne. On dit qu'ils ont bon cœur. Qui sait? Les rues, cependant, devenaient à tout moment plus noires et plus désertes. Le couvre-feu était sonné depuis longtemps, et l'on commençait à ne plus rencontrer qu'à de rares intervalles un passant sur le pavé, une lumière aux fenêtres. Depuis quelques instants, il avait attiré l'attention de la jeune fille. Elle avait à plusieurs reprises tourné la tête vers lui avec inquiétude. Elle s'était même une fois arrêtée tout court. Avait profité d'un rayon de lumière qui s'échappait d'une boulangerie entr'ouverte pour le regarder fixement du haut en bas. Puis ce coup d'œil jeté, Gringoire lui avait vu faire cette petite moue qu'il avait déjà remarquée, et elle était passée outre. Cette petite moue donna à penser à Gringoire. Il y avait certainement du dédain et de la moquerie dans cette gracieuse grimace. Aussi commençait-il à baisser la tête, à compter les pavés et à suivre la jeune fille d'un peu plus loin. Lorsque, au tournant d'une rue, qui venait de la lui faire perdre de vue, il l'entendit pousser un cri perçant. Il hâta le pas. La rue était pleine de ténèbres. Pourtant, une petite lampe à huile, qui brûlait dans une cage de fer au pied de la Sainte Vierge du coin de la rue, permit à Gringoire de distinguer la bohémienne se débattant dans les bras de deux hommes qui s'efforçaient d'étouffer ses cris. La pauvre petite chèvre, tout effarée, baissait les cornes et bêlait. « À nous, messieurs du guet !» cria Gringoire, et il s'avança bravement. L'un des hommes qui tenait la jeune fille se tourna vers lui. C'était la formidable figure de Quasimodo. Gringoire ne prit pas la fuite, mais il ne fit point un pas de plus. Quasimodo vint à lui, le jeta quatre pas plus loin sur le pavé d'un revers de la main, et s'enfonça rapidement dans l'ombre, emportant la jeune fille ployée sur un de ses bras comme une écharpe de soie. Son compagnon le suivait, et la pauvre chèvre courait après tous, avec son bêlement plaintif. « Au meurtre ! Au meurtre !» criait la malheureuse bohémienne. « Halte là, misérable ! Et lâchez-moi cette ribaude !» dit tout à coup, d'une voix de tonnerre, un cavalier qui déboucha brusquement du carrefour voisin. C'était un capitaine des archers de l'ordonnance du roi qui, alerté par les cris de Gringoire, s'était précipité sur les lieux. Il arracha la bohémienne des bras de Quasimodo stupéfait, la mit à travers sur sa selle, et au moment où le redoutable bossu, revenu de sa surprise, se précipitait sur lui pour reprendre sa proie, 15 ou 16 archers qui suivaient de près leur capitaine parurent. Quasimodo fut enveloppé, saisi, garrotté. Il rugissait, il écumait, il mordait, se débattait tant qu'il pouvait. Les gardes finirent néanmoins par le ligoter. Mais son compagnon en avait profité pour disparaître. La bohémienne se dressa gracieusement sur la selle de l'officier. Elle appuya ses deux mains sur les deux épaules du jeune homme et le regarda fixement quelques secondes, comme ravi de sa bonne mine et du bon secours qu'il venait de lui porter. Puis, rompant le silence la première, elle lui dit, en faisant plus douce encore sa douce voix, « Comment vous appelez-vous, monsieur le gendarme ?»« Le capitaine Phébus de Châteaupers, pour vous servir, ma belle, » répondit l'officier en se redressant.
« Merci. »
Et pendant que le capitaine Phébus retroussait sa moustache à la bourguignonne, elle se laissa glisser à bas du cheval comme une flèche qui tombe à terre et s'enfuit.